Chapitre 28. Flanqué de Tranquil et d'Itrain, Torrent franchit la porte de service du Trouts et se dirigea à grands pas vers les cuisines, où l'attendaient Roman, Tank, Eddie et les jumeaux Bang Bang. « Ouvrez la chambre froide » ordonna-t-il. Lucius tira le lourd battant frigorifique et une bouffée d'air frais s'échappa par l'ouverture. Roman se demanda si c'était la température glaciale ou la vision des deux hommes nus grelottants assis sur le sol de la chambre froide qui lui avait donné la chair de poule. « Relevez-les !» dit Torrent. « Pourquoi il est là, lui ?» demanda soudain Tranquil. Roman croyait être le seul avec Torrent à avoir entendu la question, mais il vit D-Train esquisser un sourire. « Parce qu'il va falloir mettre quelqu'un au four !» répliqua Torrent. Les jumeaux Bang Bang aidèrent les deux hommes nus à se remettre en position verticale et les escortèrent hors de la chambre froide. Roman remarqua alors des taches noires sur leurs fesses tremblantes, qui ressemblaient à des brûlures. Si l'un ou l'autre survivait à cette soirée, il allait devoir aller à l'hôpital pour se faire retirer cette peau nécrosée par le froid. Roman avait déjà rencontré ces hommes au Kingdom. Le plus grand se faisait appeler Wiz, l'autre Cali, en référence à la Californie, vu qu'il parlait tout le temps d'aller s'installer à Los Angeles pour devenir rappeur. Roman songea que sa carrière risquait de s'arrêter avant même d'avoir commencé. « Lequel d'entre vous était au volant ?» demanda Torrent. Wiz et Cali grelottaient tellement qu'ils claquaient des dents. Wiz regarda autour de lui. Ses yeux écarquillés faisaient penser à ceux d'un lapin pris dans un collet.
C'est moi qui conduisais, répondit-il.
Et donc quoi? T'as vu ces fils de pute s'approcher et tu leur es pas rentré dedans?
Ils avaient des bombes.
Pardon?
On avait pris la route 794 pour éviter la Nationale 85, comme tu nous avais dit. On descendait par les petites routes de campagne, tout se passait bien. On était au milieu avec la fourgonnette. Il y avait Rashon et Medzi dans la voiture devant nous et le pick-up de T-Rock et Daz qui fermait le cortège. À un moment, la bagnole de Rashon a explosé et a décollé à un mètre au-dessus de la route. Deux secondes plus tard, il s'est passé exactement la même chose avec le pick-up derrière nous. J'ai fait une embardée pour pas percuter ce qui restait de la caisse de Rashon et on s'est retrouvés dans le fossé. J'ai pas eu le temps de réagir que trois mecs, des blancs, ont débarqué. Ils nous ont sortis de la fourgonnette et puis ils sont partis. Rashon était encore en vie dans la voiture en flammes, mais on n'a pas réussi à le sortir. Il hurlait et...
« Je m'en bats les couilles de Rashon !» le coupa Torrent. « De toute façon, il est mort. Il ressemblait à quoi, ces blancs ?»
Wiz se passa la langue sur les lèvres.
« Il portait des masques !» intervint Cali.
« Alors comment vous pouvez savoir qu'ils étaient blancs ?»«
Ils avaient des blousons en cuir, genre de motard. Dessus, il y avait écrit « sang pur ». Et puis, ils parlaient comme des blancs. »«
Ça veut dire quoi, ça ? Ils parlaient comme des blancs ?»«
Comme des chanteurs de country, quoi !»
Roman était admiratif. Khalil n'avait rien laissé au hasard. Non seulement il avait dégoté des vestes à l'effigie d'un club de bikers tristement célèbre, mais il avait en plus pensé à contrefaire sa voix et son accent. Un travail soigné, digne d'un ancien des forces spéciales.
« Sang pur, hein ?» fit Torrent, en caressant son bouc.
« C'est ce qui était marqué sur leurs vêtements ?»
acquiesça Wiz.
« À qui t'as parlé ?»«
Hein ? Comment ça ?»
demanda Wiz, d'une voix de fausset.
« À qui t'a dit que t'allais traverser Roanoke avec une fourgonnette remplie d'AK-47, du con ? Des AK-47 qui étaient censés être livrés à des Dominicains qui sont déjà en route, et que je vais devoir appeler pour les prévenir que vous avez paumé leurs armes. Alors je vais te reposer la question. À qui t'as parlé ?»«
Mais à personne !»
s'écria Wiz, les yeux exorbités. Et un silence tomba sur les cuisines. Seulement perturbé par le vrombissement de la chambre froide et le tic-tac d'une horloge.
Alors comment ils ont pu savoir que vous passiez par la route 794 ?
Wiz se passa à nouveau la langue sur les lèvres. Tranquil dégaina son calibre 45 et s'avança vers lui.
Et surtout, pourquoi ils vous ont laissé en vie ? Demanda-t-il.
Non ! Je t'en supplie !
Hurla Wiz. Tranquille pointa son arme vers le front du malheureux chauffeur et appuya sur la détente. Une détonation assourdissante résonna dans la cuisine du Trautz. Les oreilles bourdonnantes, Roman eut le temps de voir un petit nuage de gouttelettes rouges capter la lumière des néons blafards, avant que le corps sans vie de Wiz s'écroule sur le carrelage comme un sac de linge sale. Kali se retourna pour s'enfuir, mais Tranquille lui tira aussitôt deux balles dans le dos, et l'aspirant rappeur tomba à plat ventre sur le seuil de la chambre froide et se mit à pousser des gémissements de chevreuil blessé. Torrent s'approcha pour lui donner un coup de pied dans les côtes. Kali eut un haut le cœur, et une giclée de sang et de bile jaillit de sa bouche entrouverte. Torrent voulut lui asséner un deuxième coup, mais il dérapa sur le carrelage que le sang avait rendu encore plus glissant. Levon le rattrapa juste à temps et Torrent, blessé dans son orgueil, se dégagea d'un geste brusque. Parce qu'il avait 15 ans et que c'est un âge où voir quelqu'un tomber ou manquer de tomber constitue la quintessence de l'humour, Eddie Munsta ne put retenir un petit gloussement. D'un coup de coude discret, D-Train le fit taire.
« Les jumeaux, trouvez une bâche et enveloppez-moi ces deux bouffons !» ordonna Torrent. « Ensuite, vous les chargerez dans la camionnette de l'intello. D-Train et Tank, occupez-vous de nettoyer tout ce merdier !»
Tranquille remit son pistolet à sa ceinture et sortit par la porte de service. D-Train et Tank ouvrirent le placard d'entretien pendant que les jumeaux Bang Bang récupéraient un rouleau de film plastique épais sous l'étagère où étaient stockées les grosses marmites et les plats à gratin. Torrent s'approcha d'Eddie Munsta et lui décocha un grand sourire.
« J'ai failli me casser la gueule en glissant sur le sang de ce con !»
Eddie sourit à son tour.
« Ouais, j'ai vu ça, c'était... »
Eddie se tenait devant un immense plan de travail en inox, qui courait sur presque toute la longueur de la cuisine. Dessus étaient disposés divers ustensiles, classés par fonction. On trouvait ainsi des attendrisseurs de viande, des culs de poule empilés les uns dans les autres, des passoires et des chinois, des casseroles, des louches, des pinces et des couteaux. Un large assortiment de couteaux de cuisine, certains avec un manche en bois, d'autres avec un manche blanc en résine, dont la surface texturée permettait une meilleure prise en main. Torrent se saisit de l'un de ceux-là et le planta dans la gorge d'Eddie Munsta, juste sous le menton. Lorsqu'il retira la lame, un flot de sang jaillit de la plaie et se répandit rapidement sur le t-shirt à l'effigie de l'université de Prosser State que portait l'apprenti gangster. Eddie tituba, et Torrent l'attrapa par ses tresses et le poignarda encore et encore dans le ventre et dans la poitrine, jusqu'à ce que le corps de l'adolescent s'affaisse et que ses jambes ne soient plus capables de soutenir son poids. Torrent le libéra, et Eddie s'écroula au sol.
« Tu rigoles moi, là, hein, fils de pute ?»
hurla Torrent, en se penchant au-dessus du cadavre. Dans la cuisine, personne ne bougeait. Personne n'osait même respirer. Roman aussi s'était immobilisé, alors qu'il venait d'enfiler une paire de gants en caoutchouc noir pour aider les jumeaux Bang Bang à envelopper les corps de Wiz et Kali dans le plastique qu'ils avaient étalé au sol. D-Train et Tank étaient figés sur place, chacun tenant un balai.
« Vous aurez qu'à emballer celui-ci aussi !»
lâcha Torrent, et il rejoignit son frère à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, alors que Roman et D-Train terminait de charger les trois corps dans la camionnette du crématorium Carousers, le gangster leva la tête vers le ciel étoilé. Les jumeaux Bang Bang étaient retournés au Kingdom. Tank était parti récupérer sa copine qui travaillait à l'hôpital. Il ne restait plus que deux.
« Je couchais avec la tante d'Eddie à l'époque », déclara D-Train. « Lui, il a perdu sa mère dans un accident de voiture alors qu'il avait que 8 ans. » Son père voulait pas de lui. Apparemment, il s'était marié avec une blanche pleine aux as du côté du Maryland. C'est Nisha, sa tante, qui me l'a dit. À 13 ans, il bossait déjà pour nous. Et l'année dernière, il a fait ses preuves.
D-Train baissa la tête et claqua la porte arrière de la camionnette.
On connaît les risques quand on choisit cette vie-là, poursuivit-il. Prendre une balle, passer quelques années derrière les barreaux, ça fait partie du jeu. Mais ça, là, c'était n'importe quoi.
Roman vit les épaules musclées du gangster s'affaisser sous le poids de la culpabilité. Il compatissait parce que c'était un sentiment qu'il connaissait intimement.
Quand j'étais à la fac, un prof m'a dit un jour qu'un vrai leader fera tout pour te mener au sommet de la montagne, mais que si t'y arrives pas, il te poussera jamais dans le vide.
Qu'est-ce que tu sous-entends ?
Demanda D-Train, la mâchoire serrée.
Rien du tout. Je faisais simplement une observation.
Roman donna une tape dans le dos du gangster et s'installa au volant. Alors qu'il démarrait, il se demanda s'il n'aurait pas plutôt dû partager avec D-Train une autre citation. Celle-là, elle lui venait de son père. Le jour où celui-ci lui avait expliqué pourquoi il comptait démissionner du funérarium où il travaillait pour ouvrir sa propre boîte. Parfois, l'homme qui porte la couronne n'est pas celui qui est censé être roi. Le temps que Roman termine la crémation des trois cadavres, il était 23h. Après avoir passé les restes dans le broyeur, il empaqueta les cendres encore tièdes dans deux sacs qu'il glissa chacun dans une urne en plastique. Au moment où il fermait la seconde, une prise de conscience le frappa comme un coup de poing au visage. Eddie Munsta avait 15 ans. Un an de moins que Roman lorsque sa mère avait disparu. Eddie n'atteindrait jamais son 16e anniversaire. Il ne terminerait jamais le lycée. Il ne ferait jamais d'études. Pas plus qu'il ne se marierait ou aurait des enfants. Non, il aurait 15 ans pour toujours. Et il ne resterait de lui que du sable gris dans une boîte en plastique qui prendrait la poussière dans l'arrière-salle d'un crématorium où chagrin, misère et douleur continuaient de tenir salon longtemps après que les flammes qui dévoraient les morts s'étaient éteintes. Roman avait le sentiment que la vie était une roue infernale qui tournait sur elle-même et qui, à plusieurs années d'écart, avait surpris Eddie pile au même endroit que lui. Autant Roman avait survécu, autant à l'intérieur, il était aussi mort que l'était désormais le jeune gangster. Il ferma l'urne et l'emporta avec la première dans la salle de stockage. Là, il prit soin de les glisser derrière d'autres boîtes similaires contenant les restes de gens dont les proches avaient opté pour une crémation avant de se raviser lorsqu'il avait fallu passer à la caisse. Roman appela ensuite Dante, mais tomba sur son répondeur. Il soupira et se demanda si c'était ce même sentiment qu'éprouvait Nevea chaque fois qu'elle essayait en vain de joindre leur frère pour qu'il vienne lui donner un coup de main au crématorium. Il lui envoya un texto lui recommandant de faire profil bas et d'éviter le Kingdom pendant quelque temps, parce que Torrent était d'humeur massacrante. Il ne lui expliqua pas que le gangster avait poignardé à multiples reprises un gamin, parce que celui-ci avait eu le malheur de pouffer. Dante était déjà au bord de l'abîme. S'il apprenait ce qui était arrivé à Eddie, il risquait de sombrer pour de bon. « Où tu es, putain ?» murmura Roman, en scrutant l'écran de son téléphone. Dante lut le message que lui avait envoyé son frère et reposa son portable sur la table de chevet. Le motel qu'il avait choisi ne coûtait que $79 la nuit, et ça se voyait. Dante s'étendit sur le dos et scruta la tache d'humidité au plafond. Dans cette chambre où l'odeur de transpiration disputait à celle du tabac froid l'hégémonie olfactive. Mais ce motel présentait l'avantage de se trouver à 80 km de Jefferson Run, sur une section oubliée de la route 301, aux confins d'une ville minuscule nommée Aruna, dans laquelle personne ne se rendait jamais, à moins de chercher à fuir ses erreurs.
« Qui c'était ?»«
Mon frère, » répondit Dante.
« Les erreurs, c'est ma spécialité, » songea-t-il, en prenant la fille dans ses bras.
Dehors, une pluie silencieuse comme une promesse secrète se mit à tomber contre la vitre, obscurcissant temporairement la vue de la Honda à l'aileron démesuré garée sur le parking.